RFI 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
Volodymyr Zelensky à Paris. Le président ukrainien a rencontré Emmanuel Macron. Demain, le président français organise un grand sommet avec une trentaine de pays prêts à contribuer aux garanties de sécurité que les Européens veulent apporter à Kiev en cas de paix. Procès de Gérard Depardieu. L'acteur est jugé pour agression sexuelle sur deux femmes. Aujourd'hui, la seconde plaignante a été entendue. Elle dit avoir été agressée trois fois par l'acteur sur le même tournage. Et puis le triple vainqueur du Tour de France et champion du monde en titre, Tadej Pogacar, participera bien au Paris-Roubaix. Thomas de Saint-Léger nous en dira plus. Dans une douzaine de minutes, rendez-vous avec Zabou Breitman. Son film Le Garçon cherche et imagine un Français anonyme dont elle a acquis des photos de famille dans une brocante. On ira aussi à Metz, dans l'est de la France. Metz, dont l'université dispense des cours de management et de commerce international à des étudiants ukrainiens.
24 heures en France.
L'Ukraine, justement. Volodymyr Zelensky est à Paris. Le président ukrainien va assister ce jeudi à un sommet organisé par Emmanuel Macron. Une trentaine de pays alliés de Kiev vont se retrouver pour une réunion sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine, en parallèle des discussions entre Russes et Américains à Riyad. Et pour préparer ce sommet, le président ukrainien s'est entretenu ce mercredi soir avec Emmanuel Macron. Il a également accordé une interview à plusieurs médias européens, dont la chaîne française France 2. Le président ukrainien a estimé que face à Vladimir Poutine, l'Europe et les États-Unis devaient faire front commun.
Il a peur de l'unité de l'Europe et des États-Unis, et c'est la raison pour laquelle son action principale est sur la séparation et l'affaiblissement de cette union. Et je pense que dans une certaine mesure, il réussit, pas totalement, Dieu merci, mais il a enregistré des succès. Ensuite, il appuie sur l'Union européenne à l'intérieur, et nous voyons aussi qu'au sein de l'Union européenne, il y parvient partiellement. Par le biais de la position de la Hongrie, je ne parle pas des Hongrois, je parle de la position officielle de la Hongrie, je parle de ses leaders, et je pense que le fait que parfois la Hongrie bloque les sanctions contre la Russie, bloque la pression sur la Russie, essaie de sortir de la liste des sanctions des oligarques russes, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Et le sommet de demain se tiendra alors que Kiev et Moscou s'accusent de vouloir faire échouer l'accord annoncé hier par les États-Unis. Accord sur un cessez-le-feu provisoire en mer Noire et sur un moratoire des frappes visant les infrastructures énergétiques. Ce soir, Emmanuel Macron a dit constater la volonté de la Russie de réécrire ce qui a été décidé en Arabie Saoudite. Et il affirme que la Russie doit accepter un cessez-le-feu dans les 30 jours sans condition préalable.
Paris 89 FM.
La suite du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens supposés d'une de ses campagnes présidentielles, c'était celle de 2007. Et ce mercredi, c'était le deuxième jour des réquisitions. Le parquet financier a estimé que de l'argent liquide avait bien circulé dans la campagne de l'ex-président et qu'il devait donc être reconnu coupable de financement illégal de campagne. Le parquet a également demandé que les ex-ministres Claude Guéant, Éric Woerth et Brice Hortefeux devaient être de leur côté reconnus coupables de complicité de délit, et les magistrats ont à nouveau réfuté les arguments de la défense en passant en revue les nombreuses contreparties dont aurait bénéficié le régime libyen. Baptiste Coulon.
Contreparties diplomatiques. D'abord, en 2005, la Libye de Kadhafi veut sortir de son isolement international. La France lui en donne l'occasion. Car une fois président, en 2007, Nicolas Sarkozy accueille Muammar Kadhafi qui plante sa tente à Paris. Est-ce une contrepartie au pacte de corruption ? Le faste de cette visite est un marqueur fort qui va en ce sens, pointe le magistrat financier. Contreparties économiques aussi. Nicolas Sarkozy et ses collaborateurs auraient eu l'intention de vendre du matériel technologique français à la Libye. Mais le plus gênant pour la défense, ce sont les contreparties judiciaires. En l'occurrence, la levée du mandat d'arrêt international visant le beau-frère de Kadhafi, le terroriste Abdallah Senoussi. Dossier géré jusqu'à l'Elysée, et même si la manœuvre avait peu de chances d'aboutir, il fallait montrer aux Libyens que la France cherchait une solution, estime le procureur. Le magistrat étrille les arguments de la défense. France. Ni complot, ni revanche libyenne après l'intervention française de 2011, mais un pacte faustien conclu entre les protagonistes.
Baptiste Coulon. Autre procès, celui de Gérard Depardieu, pour agression sexuelle sur deux femmes sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Aujourd'hui, la seconde plaignante a été entendue, une assistante du réalisateur qui dit avoir été agressée trois fois par l'acteur sur le même tournage. Le tribunal a aussi entendu les témoignages de trois femmes, journalistes, costumières et comédiennes, qui racontent avoir elles aussi été agressées par l'acteur dans d'autres circonstances. Elles décrivent toutes un homme vulgaire qui impose un humour douteux sur les plateaux avant d'agresser ses proies. Compte rendu d'audience, Marie Cazadebé.
Dans une robe noire, stricte, à col blanc, Fanny Ardant se présente à la barre. L'actrice prévient le tribunal, elle veut élargir les débats. Gérard Depardieu est un ami depuis toujours. Elle fait l'éloge d'un acteur d'exception, mais tout en ambiguïté. C'est un génie extravagant, insoumis, dangereux. Tout le monde peut s'identifier à lui parce qu'il n'est pas parfait. Elle fait allusion à une société qui change, où certaines choses tolérées sont devenues intolérables. Fanny Ardant est fidèle à sa réputation théâtrale. Mais le président du tribunal lui rappelle que dans cette salle, il n'est pas question de morale, mais de droit. Sur les faits, elle dit n'avoir rien vu, rien entendu de choquant sur le tournage. Des gros mots, oui, mais est-ce encore permis d'en dire ? Il faut du courage, clame-t-elle, pour défendre l'acteur aujourd'hui. L'un des gardes du corps de Gérard Depardieu confirme, il dit avoir perdu des contacts professionnels depuis le début de cette affaire. C'est bien vu maintenant de taper sur Gérard Depardieu, conclut-il. À propos du tournage, il ne se souvient que de on dit et d'avoir entendu l'acteur s'adresser à l'une des plaignantes. « Je ne m'approcherai plus, je ne t'embêterai plus. » Mais le garde du corps ne sait rien du contexte. Son travail, dit-il, c'est de rester discret et de protéger l'acteur. Marie Cazadebé, au tribunal judiciaire de Paris, RFI.
Depuis décembre 2023, une aide universelle d'urgence a été mise en place pour aider les victimes de violences conjugales à quitter leur domicile. La Caisse nationale des allocations familiales indique ce mercredi que plus de 42 400 personnes en ont bénéficié. La CNAF qui fait quand même état de freins, comme la nature des pièces à fournir ou le délai de traitement. RFI, minuit 7 à Jérusalem. Jordan Bardella est en Israël. Le président du Rassemblement National, le parti d'extrême droite, a entamé aujourd'hui dans le pays une visite sans précédent pour sa formation. Jordan Bardella venu assister à une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme à l'invitation du gouvernement israélien, mais le sujet de la guerre à Gaza ne peut pas être évité. Dans sa quête de pouvoir, le RN cherche aussi à se crédibiliser et sur le Proche-Orient comme sur d'autres sujets internationaux. Le parti à la flamme est sur une ligne de crête. Raphaël Delvolvé.
En plein rapprochement avec le gouvernement Netanyahou dont il partage l'hostilité à l'égard d'Emmanuel Macron, Jordan Bardella se montre compréhensif des opérations militaires en cours à Gaza.
On ne peut pas reprocher à une nation qui est victime du terrorisme de se défendre en ciblant une organisation qui utilise les bâtiments publics et les bâtiments des civils pour dissimuler ses quartiers généraux. C'est ce qui rend probablement cette guerre extrêmement complexe.
Pas de condamnation ni de commentaire sur le très lourd bilan après plus d'un an de conflit. Seule une légère allusion.
À partir du moment où Israël était victime de pogroms et d'attaques terroristes sans précédent, sa réponse, elle était légitime. Elle devait nécessairement se faire dans le respect du droit international et du droit de la guerre.
Sur les solutions au conflit israélo-palestinien, le RN cherche là encore à ne pas froisser l'hôte israélien tout en respectant la position historique de la France.
Nous avons toujours épousé la position de la France, qui est celle, à terme dans ce conflit, d'une solution à deux États. Mais cette solution, elle est aujourd'hui rendue totalement impossible par l'existence même du Hamas.
Une stratégie du risque minimal qu'applique désormais le Rassemblement national. Le parti à la flamme en novembre dernier, par exemple, saluait la réélection de Donald Trump aux États-Unis sans pour autant se revendiquer du trumpisme. Raphaël Delvolvé, Jérusalem, RFI.
Direction maintenant l'Assemblée nationale qui, après plusieurs mois d'audition, a débattu ce mercredi de la question sensible en France de la haine anti-musulman. Un échange tendu qui s'est focalisé sur la notion d'islamophobie. Aurélien Devernois.
J'aimerais que ce débat puisse permettre d'écouter les orateurs dans le calme.
Le vice-président de l'Assemblée, Roland Lescure, a bien du mal à calmer les bancs pourtant presque vides de l'hémicycle. Car à la tribune, les mots sont durs comme ceux de la députée écologiste Sabrina Sebaï, co-rapporteuse de l'enquête parlementaire sur les discriminations visant les musulmans en France.
Ce n'est pas l'islam qui menace les libertés individuelles, c'est l'islamophobie. On ne peut plus être arabe et porter une barbe à la télévision, ni porter un voile sur un terrain de basket, et bientôt même dans la rue.
Dans les travées occupées par la droite et l'extrême droite, on s'énerve. Julien Odoul, député Rassemblement National.
Le mot islamophobie n'a aucune réalité juridique, sociale, historique. Il n'existe pas.
Pas d'islamophobie, à peine des discriminations et agressions que justifie à demi-mot le député UDR Olivier Fessa.
Je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme.
De quoi faire sortir de ses gonds le député insoumis Sébastien Delogu, qui dénonce au contraire une rhétorique anti-musulmane continuelle dans le débat politique français.
Les Français ne se sentent pas en sécurité, vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir, vous parlez d'islam.
Dernière à la tribune, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, dénonce des discours populistes, tout en promettant la vigilance du gouvernement face aux chiffres en hausse des discriminations visant les Français musulmans.
Aurélien Devernois. Ils ont jusqu'à vendredi. À Paris, le préfet Laurent Nunez a pris ce mercredi un arrêté ordonnant l'évacuation d'ici deux jours des migrants qui ont planté des tentes sur les quais de la capitale. Des migrants qui avaient auparavant déjà été expulsés du théâtre de la Gaîté Lyrique. Ils demandaient à être relogés et aussi que soit reconnu leur statut de mineur. RFI, 23h11 à Roubaix. La rumeur était bien fondée. La superstar du cyclisme Tadej Pogacar s'attaque au pavé du Paris-Roubaix. Le Slovène, triple vainqueur du Tour de France et champion du monde en titre, participera pour la première fois à la mythique classique. Ce sera le 13 avril prochain. Un pari rare et osé, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger.
Les chasseurs de grand tour, plus à l'aise en montagne, laissent en général ces classiques pavés aux spécialistes des coureurs lourds, puissants, habitués à ce terrain, à ces conditions, des hommes du Nord, belges ou néerlandais souvent. Tadej Pogacar déjà faisait exception. Il avait gagné le célèbre Tour des Flandres pour sa première il y a deux ans. Mais Paris-Roubaix, c'est encore autre chose. C'est la plus sauvage, la plus incertaine, la plus dangereuse aussi de ces courses sur les 30 secteurs pavés, tous aussi mauvais et vicieux. Une chute peut vous gâcher la saison. L'équipe de Pogacar d'ailleurs a tenter de freiner ses ardeurs, sauf que le Slovène a un grand objectif. Il veut devenir le meilleur coureur de l'histoire, gagner les 5 monuments du cyclisme. Paris-Roubaix en fait partie. Alors à 26 ans, c'est peut-être le moment de mettre les roues dans l'enfer du Nord, d'apprivoiser ces diables de secteur, de marcher sur les plates-bandes de son grand rival du printemps, Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, double vainqueur sortant à Roubaix, vainqueur aussi samedi dernier de Milan-San Remo, au nez et à la barbe d'un Tadej Pogacar forcément piqué. Revanche Char, un Pogacar qui, à l'audace, au panache, se lance peut-être le plus grand défi de sa carrière.
Et pour trouver la trace d'un vainqueur du Tour de France, également sacré à Roubaix, il faut remonter à Bernardino, c'était en 1981. Et puis le cyclone Chido, qui a ravagé il y a quelques mois l'île de Mayotte dans l'océan Indien, aura fait pour 500 millions d'euros de dégâts. France Assureur indique ce mercredi qu'en tout, les événements climatiques auront fait pour 5 milliards d'euros de dégâts en France en 2024. Et si ce n'est pas un record, le chiffre témoigne de la hausse considérable du coût des catastrophes naturelles depuis les années 80. En 20 ans, les indemnisations des dégâts des eaux ont ainsi plus que doublé. À suivre dans quelques minutes, le journal de l'Outre-mer.
24 heures en France, Christophe Paget.
Et on se rend maintenant au cinéma avec en salle ce mercredi un film qui mêle documentaire et fiction, Le Garçon. Deux réalisateurs, Abou Breitman et Florent Vassaux, cherchent à travers un véritable jeu de piste un Français anonyme dont Abou Breitman a acquis les photos de famille dans une brocante. Abou Breitman interrogé par Sophie Torlotin.
On a récupéré des photos de famille dans une brocante. Et parmi cette famille, il y avait ce garçon.
Abou Breitman, bonjour.
Bonjour.
Le garçon que vous réalisez avec Florent Vassaux, en fait, c'est deux films en un. Il y a une partie fiction, il y a une partie documentaire, et tout part de l'achat d'un lot de photos d'une famille anonyme et ordinaire. Est-ce que tous les deux, Florent Vassaux et vous, vous partez du principe que chaque vie est une histoire ?
Oui, c'est pour ça qu'on fait le film. C'est parce qu'on est persuadé que chaque vie mérite un film, et la vie la plus apparemment ordinaire n'est pas une vie ordinaire. Chaque vie est exceptionnelle, on en est convaincu. Donc on fait le pari de vérifier, quoi.
C'est vous, Zabou, qui vous fixez sur une personne en particulier dans ce lot de photos, à savoir un garçon que l'on voit tout jeune sur les photos de famille et que l'on voit grandir.
D'abord, l'idée a précédé la recherche des photos. On avait 4 lots de photos. On voit qu'un lot dans le film, mais en fait, il y en avait 4 familles. Elles n'étaient pas très pratiques pour Florent parce qu'il fallait bien qu'il retrouve des choses. Et c'est la famille où il avait le plus d'indices. Et il se trouve aussi qu'on voit effectivement ce petit garçon qui est au centre, en fait, dans toutes les photos, quasiment. Ça commence en 40 et ça finit en peut-être 2000. Donc on a 50 ans de la vie d'une personne. Donc forcément, c'était intéressant. Et puis, son regard nous plaisait. Il a un regard particulier, très doux, peut-être un peu timide même, je ne sais pas, mais Il y a quelque chose qui nous appelle, ouais.
Il est arrivé à ce qu'il voulait dans sa vie pour moi, ce homme-là.
Il a souffert, ce homme-là.
On sent qu'il y a le rire qui va fuser, vous voyez pas ?
Je sais pas s'il est triste ou il est gêné.
Florent Vasseau, lui, il va mener l'enquête et donc réaliser un documentaire. Et vous, Abou Bretman, vous imaginez la vie fictive de ce garçon, mais vous vous servez un peu du matériau que vous rapporte Florence en dévoilant son enquête. Il vous donne un peu des éléments pour écrire les dialogues.
Oui, donc lui, il va essayer de retrouver ce garçon, cette famille et voir sa vie. Et moi, en fait, je le prends uniquement à 25 ans. Parce que je le vois sur les photos à 25 ans avec son père et sa mère. Je me dis, oh, le père et la mère, ça pourrait être François Berléand et Isabelle Nanty, qui, je sais, seront partants pour ça. Parce qu'ils partent pour l'aventure, quoi. Effectivement, je ne sais pas ce que fait Florent. Je lui demande malgré tout des interviews, parce que j'avais déjà fait ça avec Depardon. J'aime beaucoup reprendre la parole documentaire pour la rejouer, en fait. Et j'ai donné ces paroles-là aux acteurs. On partait tellement avec rien, c'est-à-dire, moi je ne savais rien de ce qu'il faisait, Florent, rien de ce que je faisais. Donc c'était important qu'on ait quelque chose, un petit lien quand même.
Zabou Bretman, est-ce que vous diriez que le garçon, en fait, votre film, il s'est fait au montage ?
Oh, le film s'est écrit au montage, ça c'est sûr. Il y a des morceaux de documentaire, c'est très sympa, il fait une enquête quand même, hein, qui est d'ailleurs parfois à suspense, quoi, vraiment. Par moments on se dit, oh, puis non, les gens savent pas, puis hop, ils se souviennent pas, enfin c'est complètement fou. Bon, après, Florent, il a traité avec des vraies personnes, il va jusqu'où ? Jusqu'où on peut aller avec quelqu'un ? Jusqu'où on peut s'immiscer dans la famille d'une personne qu'on connaît pas ? C'était des vraies questions éthiques qui se sont posées sans arrêt au montage. Bon, après, on a beaucoup ri également, parce que c'est quand même extrêmement drôle dans le film. Et puis après, la vie prend sa place. En fait, on s'est laissé faire. C'est exactement ce qu'on demande au public, c'est de se laisser faire. Oui, le concept est pointu. Oui, c'est bizarre. Mais c'est pas bizarre, en fait, du tout à l'arrivée. Et les gens, que ce soit des férus de cinéma ou pas, ils sont touchés, émus, bouleversés. Et on s'attendait pas à ce que les gens nous disent merci de nous donner tant d'amour sur l'humanité, en fait.
Moi, je l'appellerais bien Georges.
Je mettrais bien Jean-Michel.
Ah, Phoenix.
Antoine.
Charles.
Richard Thompson.
Zabou Bretman, merci.
Zabou Bretman, le film Le Garçon est sorti ce mercredi.
Reportage France.
Direction Metz, dans l'est de la France, Metz, dont l'université dispense depuis 2022 des cours de management et de commerce international à des étudiants ukrainiens. Une formation unique en France pour les aider à reconstruire le pays après-guerre. Reportage Vilhoen Munoz-Boyau.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a continué le projet sur le cours de...
C'est l'un des derniers cours du semestre pour les étudiants du diplôme franco-ukrainien Management et Commerce International de l'Institut d'administration des entreprises de Metz. Une formation créée en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine, comme l'explique Julien Husson, directeur de l'Institut.
Alors, l'idée est venue d'une de nos anciennes étudiantes, Violetta Moscalo, qui a vu l'opportunité de créer un diplôme pour faire venir des étudiants d'Ukraine avec un statut de réfugié.
À l'époque doctorante en sciences de gestion à Metz, l'Ukrainienne Violetta Moscalou est devenue la responsable pédagogique de la formation.
Nous avons pu lancer un espace record en 2 mois, un programme de niveau Bac plus 3 qui permet de former tous les ans une trentaine de diplômés. Et donc l'objectif, c'est de former des managers parce que la guerre va s'arrêter à un moment donné et les chantiers de reconstruction vont être très importants. Et il y aura besoin des managers capables de travailler dans un milieu franco-ukrainien.
Entre deux cours, des étudiantes ukrainiennes se retrouvent à la cafétéria. Violetta Chenkaryuk, 23 ans, fait partie de l'actuelle promotion. Originaire de Tchernitsy, à l'ouest de l'Ukraine, elle est arrivée à Metz en juillet dernier. Un master en langue étrangère en poche, mais sans parler un mot de français.
Nous avons beaucoup de cours en gestion de projet, en marketing, en finance, beaucoup d'heures de français. Maintenant, je vais essayer de trouver un stage et après, dans quelques années, peut-être je vais retourner en Ukraine, si c'est possible.
Une centaine d'étudiants a déjà achevé la formation. Parmi eux, les 2 tiers ont poursuivi leurs études en master en France et 1 tiers a trouvé un emploi ou créé son entreprise, comme Tétiana Poorena, 26 ans.
Et c'est Boutique Solidaire Kvitka, dont je suis très fière. Dans notre boutique, les gens peuvent trouver des chemises brodées ukrainiennes traditionnelles, sucreries, du miel, des souvenirs. Mon but est de faire découvrir notre culture parce que l'Ukraine est incroyablement riche culturellement.
Comme elle, 80% des Ukrainiens bénéficiaires de la formation sont des femmes, car il est presque impossible pour les hommes de plus de 18 ans de quitter l'Ukraine en raison de la mobilisation mise en place après l'invasion russe. Face à son succès, la formation initialement prévue pour une durée de 3 ans va être prolongée pour au moins 3 années supplémentaires. La prochaine rentrée est prévue en octobre 2025. Vilhoen Munoz-Boileau, Metz, RFI.
RFI 23h20 à Paris.
Le journal de l'Outre-mer.
Et à la une du journal de l'Outre-mer, le chikungunya. Alex Léveillé, bonsoir.
Bonsoir. À La Réunion, l'épidémie de chikungunya approche de son pic. L'agence régionale de santé l'annonce pour le mois prochain. Et dans les laboratoires d'analyse, les délais d'attente s'allongent face au nombre croissant d'échantillons livrés. Paul-Émile Jean est biologiste médical à Saint-Clotilde.
On réalise à peu près 4000 PCR chikungunya la semaine dernière. Et cette semaine, on ira vers les 5000 tests, je pense. Sur les 1000 prélèvements qu'on reçoit pour la recherche directe du virus, on est sur un taux de positivité proche de 60%.
Le pic, il est prévu pour mi-avril, selon Santé publique France, mais pour l'instant on est bien dans l'épidémie.
Il y a aussi des gens en ce moment qui disent j'ai déjà eu le chic, je comprends pas, je l'ai de nouveau alors que je devrais pas l'avoir.
Alors il y a 20 ans, on n'avait pas toute cette technologie pour étiqueter l'infection à chikungunya. On s'est basé sur les signes cliniques pour beaucoup de personnes, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment s'ils l'ont attrapé, parce qu'il y a plein d'autres pathologies qui donnent ces mêmes signes cliniques. Donc c'est pour ça, il n'y avait que des tests de sérologie, mais pas de PCR.
Combien de temps il faut attendre le moment de son analyse et le résultat?
L'analyse, elle dure 4 heures. Par contre après, il y a tellement de monde, le patient, lui, il a ses résultats au bout de 1 à 2 jours. On a élargi nos horaires de travail afin de répondre à toutes les demandes.
Paul-Émile Jean, biologiste médical à Saint-Clotilde, était au micro de Claudette Vaitilingan de Réunion la Première. La justice avance dans l'affaire des airbags Takata défectueux. Les procédures ouvertes dans cette affaire sont regroupées au parquet de Paris. Une décision attendue par les avocats des victimes. Éric Lefebvre de Guadeloupe la Première.
C'est une première victoire pour les avocats des victimes des airbags Takata et une nouvelle étape dans le parcours du combattant judiciaire qui les attend. Le parquet de Paris va centraliser les procédures ouvertes dans l'Hexagone concernant les accidents liés à ces airbags défectueux. Ce regroupement dans un seul parquet était souhaité par souci d'efficacité. Mais c'est surtout outre-mer que des procédures ont été lancées. Tous les dossiers de Guadeloupe ont été centralisés, eux, au parquet de Pointe-à-Pitre et ils sont désormais traités par une seule juge d'instruction. Le scandale des airbags du fabricant japonais, aujourd'hui liquidé, secoue le secteur de l'automobile depuis 2014. À cause d'un gaz qui vieillit mal, il risque d'exploser en projetant des pièces sur les conducteurs. En France, 29 accidents liés à ces airbags ont été recensés, provoquant 11 décès en Outre-mer et 1 en métropole, selon le ministère des Transports. Aux États-Unis, 28 décès et au moins 400 blessés ont été recensés il y a une dizaine d'années. Les procédures d'indemnisation sont pour la plupart toujours en cours. Ici, des plaintes ont été déposées contre Stellantis, le groupe de la marque Citroën, équipé par Takata, plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.
Éric Lefebvre de Guadeloupe la Première. Et la Martinique, elle envisage de développer une filière agricole pour le fruit à pain. Il se consomme cuit, au four, frit, en purée, comme la pomme de terre. Le reportage de Pierre-Yves Honoré de Martinique la Première.
J'ai présenté un petit gâteau roulé à base de fruits à pain, banane, les muffins, les cookies et les conserves.
Ces nouveaux produits à base de fruits à pain en cours d'élaboration pourraient rejoindre sur les étals farine et chips de fruits à pain déjà bien connus. Depuis 2024, les équipes de recherche et développement du PARM explorent toute une panoplie de produits à partir de fruits à pain. Séverine Lebeau, la responsable du pôle recherche et développement du PARM.
Vision 360 du fruit à pain, on va partir sur des plats cuisinés, des produits apéritifs, sur des boissons à base de fruits à pain, des pâtisseries à base de fruits à pain. C'est vraiment se dire explorer dans toutes ses formes en fait le fruit à pain.
Pour que ces nouvelles recettes voient le jour, le PARM s'est donné mission de structurer avec ses 12 partenaires une filière autour du fruit à pain. C'est le réseau BioAir. Katia Rochefort, la directrice du PARM.
Dans ce projet, on a effectivement des acteurs de la recherche, des acteurs du développement, des acteurs économiques qui vont en fait s'approprier effectivement les connaissances qui seront acquises au travers des études de recherche-développement qui seront menées pour faire en sorte que la dynamique d'innovation dans ce secteur soit plus intense.
L'objectif, c'est que toutes les connaissances acquises soient rapidement transférées à des acteurs économiques pour une mise sur le marché. Katia Rochefort.
Et donc cet appel à manifestation d'intérêt va permettre à une entreprise de se positionner pour pouvoir s'approprier les connaissances pour développer telle ou telle production élaborée avec notre fruit à pain.
Ces nouveaux produits à base de fruits à pain et leur process de fabrication seront fin prêts d'ici juillet 2027 selon le PARM. La course contre la montre est d'ores et déjà lancée.
Un sujet signé Pierre-Yves Honoré de Martinique, la première, et c'est la fin de cette édition. Mais excellente soirée à tous.
Merci Alex Léveillé, excellente soirée à vous aussi.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Beaucoup l'ont eu et il y a une époque où c'était considéré comme une sorte de passage obligé au cours d'une vie, en tout cas en France, l'appendicite. Caroline Paré nous en parle avec son invité.
Professeur Richard Douard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien viscéral à la clinique Bizet à Paris. La chirurgie est moins fréquente, en tout cas plus systématique en cas d'appendicite aujourd'hui. Comment l'expliquer ?
Il y avait une exception française qui était que toutes les douleurs de la fosse iliaque droite, donc de la partie inférieure droite de l'abdomen, étaient étiquetées comme appendicite et le diagnostic était très largement posé avec des indications chirurgicales très larges, qui fait que dans les années 70, on faisait 7 fois plus d'appendicectomie en France que dans les pays avoisinants. Avec le développement de l'imagerie et des critères diagnostiques plus rigoureux, on a le même taux que les autres pays d'Europe.
Mais pour la péritonite, là, en revanche, c'est une urgence chirurgicale.
C'est une urgence chirurgicale et ce taux est resté stable. C'est-à-dire que les appendicites compliqués de péritonite, puisque c'est ça dont il s'agit, ont un taux stable et sont une urgence puisqu'il faut aller, d'une part, retirer la cause qui est l'appendice et d'autre part, nettoyer la cavité péritonéale, donc la cavité abdominale qui est remplie d'infections.
En termes de diagnostic, comment ne pas passer à côté d'une péritonite ?
Écouter les malades, les examiner, quelques examens biologiques simples et si possible, recours à de l'imagerie, mais ça n'est pas toujours nécessaire, même si en France, c'est très largement pratiqué.
Merci professeur Douard. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle de malnutrition, lutte contre la malnutrition à l'occasion du sommet international Nutrition for Growth, les 27-28 mars à Paris. D'après l'UNICEF, un enfant sur 4 de moins de 5 ans souffre de malnutrition dans le monde. Alors quelle mobilisation pour lutter contre ce fléau ? Émission présentée par Chantal Leroux à retrouver à 9h10, 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'est noté. Merci Caroline Paré. Santé toujours. À la mi-avril, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid va être lancée à destination des personnes les plus vulnérables, notamment les plus de 80 ans, et ceux qui habitent dans des EHPAD, même s'ils sont plus jeunes. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la Direction Générale de la Santé. Objectif, préparer à la période estivale, les vacances d'été, pendant lesquelles le virus a tendance à circuler davantage. La campagne doit durer 2 mois. Et puis, dans le département de la Manche, le nord de la France, la société Réseau Transport d'Électricité a été définitivement condamnée à verser 440 000 euros à un éleveur. Ces vaches, situées à proximité d'une ligne à haute tension, tombaient toutes malades et son lait était devenu impropre à la consommation. RFI, c'est la fin de 24 heures en France. Merci à Valentin Vanner à la réalisation et Loïc Bussière à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir. Mais en attendant, on part à la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones cède 133 points, revient à 42 455. L'indice du Nasdaq décroche de 373 points et clôture à 17 899. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid comme s'il voulait délibérément déboussoler les marchés, annonçant hier une certaine flexibilité dans les droits de douane qu'il promet pour le 2 avril sur une grande liste de pays, puis, aujourd'hui, indiquant que des droits de douane spécifiques couvrant l'automobile sont imminents. Le marché obligataire est le plus frappé par ces perspectives car les investisseurs redoutent une relance de l'inflation du fait des hausses de prix provoquées par les surtaxes à l'importation. Et le rendement du T-Bond, à 10 ans, remonte à 4,35. Les commandes de biens durables en février aux États-Unis grimpent de 0,9%, ce qui dépasse les prévisions, mais il semble que le sursaut de ces commandes corresponde en fait à un afflux de commandes pour éviter l'impact des droits de douane, droits qui vont s'appliquer à partir du mois d'avril ou du mois de mai. Le baril de pétrole américain remonte d'1% à près de $70, aidé par une chute des stocks américains de pétrole et par une accélération de l'activité dans le raffinage, des signes de forte demande de carburant aux États-Unis. L'euro retombe à $1,0750. Sous la forte pression de valeurs de la technologie, notamment Nvidia, Salesforce, Amazon, Microsoft, Apple, l'indice Dow Jones aujourd'hui perd 0,3%. L'indice du Nasdaq chute de 2%.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, X et Instagram. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.